Alors, je vais poser une question, comme on parle justement sur le fait qu'est-ce qui s'est perdu dans le cinéma de Kitano dans ce passage dans les années 2000. Une question un peu polémique qui est que je pense vraiment que Kitano croyait en ses personnages dans les années 90, mais qu'il y avait un élément extrêmement important qui nous faisait croire aussi à ces personnages, qui était la musique de Joe Hisaishi, dont la collaboration s'est arrêtée justement à Aniki. Et est-ce que c'est pas aussi ce qui donnait un espèce de supplément d'âme au film de Kitano, qui s'est complètement perdu à la fin de leur collaboration et qui a entraîné un espèce de désenchantement de ces films?
Alors après, la question est de savoir si il constituait les plans de ces films en pensant déjà à l'habillage musical qui les accompagnerait. C'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup de lyrisme dans ces films des années 90, très bien cadrés, avec ces plans de plage, ces plans où on voit les silhouettes en train de contempler de Sen at the Sea à Aniki et tout ça. Donc oui, effectivement, cette recherche de la grâce, cette recherche de l'envolée, qui semblait effectivement pensée pour... l'image semblait effectivement pensée, calibrée pour cet accompagnement musical. Alors après, est-ce qu'il a une perte de moyens, est-ce qu'il a perdu ses moyens suite à cette fin de collaboration, mystère, je ne saurais pas dire.
Après, Bailon Cop, sans Joe Hisaishi, fonctionnait quand même. Enfin, Dolls aussi, pour moi, fonctionne quand même sans Joe Hisaishi. Par contre, il y a quelque chose en fait dans la musique de Joe Hisaishi qui était importante, c'est le décalage aussi qu'elle amenait dans son cinéma. Quand même beaucoup de, il y a des beaux thèmes, mais il y a quand même une sorte de kitsch que je retrouve pas, par exemple dans les musiques qu'il fait pour Miyazaki. Il y a des ritournelles un peu kitsch, je pense à Kids Returns, Sen at the Sea, même Sonatine, Anabi c'est quand même plus, je vais pas dire conventionnel, mais je me souviens par exemple Kids Returns, un peu de synthé, il y a quelque chose d'un peu...
On est dans l'époque, oui.
Un peu dans l'époque et un peu en décalage avec l'émotion qu'il peut avoir aussi sur les images. J'aime beaucoup Joe Hisaishi, mais c'est vrai que chez Kitano... à part Anabi, c'est vrai que Sonatine peut-être aussi, mais par exemple Sen at the Sea qui a une très belle musique, même sans la musique de Joe Hisaishi, je vois le film quand même. Enfin, pour moi c'est pas si important que ça. Achille et la Tortue que j'aime beaucoup aussi sans la musique de Joe Hisaishi, mais je pense que je suis le seul à trouver ça kitsch, la musique de Joe Hisaishi.
C'est une musique très sentimentale, quoi. C'est une petite ritournelle comme ça qui est là pour un peu embellir.
Et surtout l'utilisation qu'en fait Kitano, c'est-à-dire qu'il prend systématiquement, et comme il le faisait dans Violent Cop avec Satie, il prend quelques notes, un thème, qui remet toujours à peu près au même endroit. Les plans, avec la mélodie de Kikujiro, avec le gamin qui court et ses ailes d'ange dans son sac, il l'emploie, je ne sais pas, 6-7 fois dans le film. Pareil pour Kids Return, à chaque fois qu'on voit les deux personnages en vélo. Il crée du mouvement, il remet le thème, le même thème d'Hisaishi. Donc c'est aussi l'utilisation, un peu kitsch qu'en fait Kitano qui provoque ça, mais qui aussi provoque une émotion réelle, parce qu'il y a une espèce de simplicité mélodique.
C'est de la musique en mineur, quoi. Elle est vraiment là, presque en...
Voilà, quoi. Dans Jugetsu, t'as vraiment aucune musique, il n'y a pas de musique, à aucun moment. Il n'y a pas de musique du tout, et... ça sèche pas plus que ça le film. Enfin, le film n'en est pas plus sec. Les émotions sont là. Il y a des scènes vraiment hilarantes, scènes tristes, violentes. Je vais pas dire Joe Hisaishi. Avec Joe Hisaishi, il a trouvé justement un moyen d'aller plus facilement là où il voulait aller. Mais il y a un petit peu de ça. En fait, c'est assez pas illustratif, mais c'est pas loin d'être de la musique pour illustrer le gamin qui part avec Kitano sur les routes. Par exemple, l'été de Kikujiro, la musique, j'ai vraiment du mal avec la musique de l'été de Kikujiro.
Mais c'est le Sonatine, elle est tellement belle, quoi.
Elle commence en plus la musique de Sonatine, si je me souviens, au moment où il quitte la ville. Elle commence vraiment au bout de 30 minutes, je crois, ou 25 minutes, la musique de Sonatine. Elle part pas tout de suite, il me semble pas. Enfin, la mélodie, tu vois, qui est connue de Sonatine, le piano.
Bon, il faudra revoir, parce que ça fait 15 ans que j'ai pas vu.
Un autre élément dont on a parlé, justement, Fabien, que tu évoquais tout à l'heure, c'était la famille chez... la reformation familiale qu'il pouvait y avoir dans la description du milieu des Yakuza chez Kitano. Et c'est vrai que c'est une thématique qu'il n'explore pas du tout, qu'il laisse en marge complètement, en tout cas la famille traditionnelle japonaise, jusqu'à Kyokujiro, où il y a la présence de la mère, qui d'ailleurs est absente. Est-ce que tu veux compléter là-dessus ?
On va dire le rapport à la famille, sans tomber non plus dans les clichés, mais c'est vrai que dès son premier film, elle est assez compliquée quand même, parce que la seule famille qu'il a dans Violent Cop, c'est une sœur qui, on sait juste qu'elle est sortie d'un hôpital psychiatrique, elle a des problèmes, enfin voilà, il s'occupe un petit peu d'elle, il va justement à la mer avec elle, il se balade. Et bon, sans spoiler le film, ça se passe très mal à la fin, on peut spoiler le film, tout le monde a vu Violent Cop. Hein.
Oui. Et sinon, vous pouvez mettre sur pause, hein, aller voir Violent Cop et revenir.
Il meurt à la fin.
Ouais. Voilà. Ils meurent tous. Voilà. En fait, il finit par la flinguer. En fait, pour la petite histoire, elle s'est fait kidnapper par des petites frappes, on va dire, qui la droguent, qui la violent, et quand Kitano revient pour se venger, tuer tout le monde, ça serait tellement dans un sale état qu'il la tue avant de mourir. Et c'est pas à partir de là que non plus tout va se construire, mais enfin pour commencer, c'est un petit peu particulier quoi.
Les Yakuza, souvent dans les films, ils sont là pour compenser
cette absence.
Une absence de famille en fait, ouais, de liens familiaux dans la société normale, disons. La société.
On le voit dans Kids Return particulièrement, enfin, il n'y a pas du tout de. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils sont des lycéens, ils n'ont pas du tout de.
À partir de celui-là, je pense qu'ils développent le plus. Ils développent vraiment les liens familiaux, en fait, les problèmes de liens familiaux au Japon. À partir de là, aussi, ça rejoint le côté. Au Japon, en tout cas, à ce moment-là, il avait quelque chose à dire, en fait. Il avait un discours. Il voulait aussi. Décrire un peu les problèmes qu'il y avait dans la famille japonaise. Est-ce que le Yakuza pouvait représenter un échappatoire pour des jeunes, rentrer dans le monde des Yakuza, ça représentait une autre famille. Après, ça c'est un thème qui a été repris par beaucoup de réalisateurs, la dissolution des liens familiaux au Japon, et puis le fait d'entrer dans une société parallèle pour pouvoir compenser ce qu'on n'a pas eu dans sa propre famille.
Parce que ce qui est étonnant, c'est que structurellement, c'est vrai que la vie, pour faire une grande généralité, la vie d'un japonais, et on le voit dans beaucoup de films, est structurée par l'entreprise d'un côté, par la famille de l'autre. Et ce sont deux thématiques qui ne sont pas du tout abordées par le cinéma de Kitano, où à chaque fois, il substitue à la fois l'entreprise et à la fois la famille par des liens complètement annexes qui peuvent passer par cette représentation des Yakuza. On le voit dans Kids Return, que ce soit la scène de boxe ou les Yakuza, finalement, il y a un retour extrêmement violent aussi qui se fait par rapport à ces jeunes qui sont rejetés finalement du milieu à cause d'erreurs qu'ils peuvent faire. Et donc, il n'y a pas de lien qui sont faits entre ce substitut d'entreprise, ce substitut de famille. Et tous les personnages de Kitano sont finalement... se retrouve seul, livré à eux-mêmes.
Dans un habit, tu parlais de Yakuza, la famille Yakuza, mais ça marche un peu avec tous les films. Mmh. La famille de la police, enfin, l'espèce de lien aussi, par exemple, dans un habit, un des policiers se fait blesser dans une attaque, il devient paraplégique, il se met à la peinture. En parallèle, sa femme le quitte. Et du coup se retrouve complètement seul et Kitano essaye quand même d'aller le voir pour continuer le lien qu'ils avaient créé ensemble. Et Yakuza, le clan, oui, comme tu disais tout à l'heure, on en parlait en off là, le terme exact, tu m'avais dit.
Ah, Oyabun. Oyabun, c'est-à-dire que Oya, tu peux l'utiliser, c'est Oya, c'est un mot, tu pourrais dire Oya Titi, Oya Rara, c'est pour désigner les parents en fait. Donc c'est une sorte de parent en fait. C'est vraiment clairement c'est la même position que les parents.
Jusqu'à Miki qui est le frère.
Qui est le frère.
Et la relation donc.
Un mot utilisé aussi dans la mafia, c'est celui qui est au même niveau que soi. Aniki, c'est celui qui est au même niveau que soi. C'est le frère. Le patron, celui qui est au-dessus, c'est Oya, c'est le parent en fait. Il représente, c'est vraiment structuré comme une famille. Le monde des Yakuza est vraiment comme ça en fait. Il est vraiment construit comme une famille. Après, il s'interroge justement sur ça, sur est-ce que les Yakuza au Japon représentent vraiment une façon de compenser les problèmes de familiaux de la société normale, disons, ou pas en fait, ou est-ce que finalement ça crée à la longue les mêmes problèmes, on finit par trouver les mêmes problèmes.
Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que Kitano arrive à parler du Japon actuellement, puisqu'il met finalement les rituels sociaux qu'on voit traditionnellement dans les autres films japonais vraiment en marge, comment est-ce qu'il parle justement de la société japonaise?
Après, il y a Dolls, en fait, par exemple. Dolls, en fait, il ne parle pas de Yakuza dans Dolls, mais tout le film est basé là-dessus. Il y a trois histoires. Les trois histoires sont trois personnages qui vont se retrouver en dehors de la société. Et c'est la façon dont ils vont devoir se construire autrement. On avait le premier personnage qui doit se marier. Et en fait, sa famille refuse qu'il se marie avec cette personne. Je ne sais plus, parce que... ouais, c'est ça. Et la femme, sa fiancée, en fait, finalement, je crois, essaye de se suicider. Et elle garde des séquelles psychologiques. Et finalement, il va abandonner toute sa famille pour continuer à vivre avec elle, en fait. Donc là, il décide lui-même de quitter sa famille. En fait, il ne se reconnaît plus dans sa famille. Les liens, à la base, c'est quelque chose qu'on l'avait forcé à se marier avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas suivre sa famille. Donc il s'échappe de ce monde-là. La deuxième histoire, c'était aussi quelqu'un qui n'a pas de famille. On voit qui est fan de une idole
japonaise. Ouais, ouais.
Lui, il vit complètement renfermé dans une chambre. Son travail est d'assurer la sécurité sur les travaux sur la route. Et on le voit tout seul, cette personne-là, au départ. Il n'a aucune famille, il n'a rien. Il ne fait pas partie de la société. Il est complètement isolé. Il vit dans une chambre et c'est tout. La troisième histoire... Quelqu'un peut m'aider.
C'est pas deux amoureux, deux amants qui vont finir par
se suicider. Ça, justement, c'est la première histoire, en fait. Parce que.
Ah oui, d'accord, qui revient à la fin.
Oui, c'est ça.
Voilà, qui va conclure. C'est celle de Kasano Tadanobu, c'est ça? Oui, les deux marchent liées par elle.
Oui, mais ça, c'est toujours la première histoire. On retrouve comme un leitmotiv dans le film. Alors, on a une autre histoire.
Un chef d'entreprise, je crois, qui avait plus ou moins des liens anciens avec la mafia.
Non, en fait, c'était. Alors, non, c'était un yakuza, donc je me suis trompé, en fait. Il y a des yakuza dans le film, en fait, ouais. Il y a l'histoire de Yakuza. Et lui, en fait, il a un regret dans sa jeunesse, à l'époque où il était petit Yakuza, en fait. C'est-à-dire qu'il n'était pas intégré dans cette famille. Finalement, il regrette, quelque part, d'être entré dans le monde des Yakuza. Il y a quelque chose qu'il n'a pas fait à l'époque. Et qu'il veut rattraper le temps perdu. Il veut revivre comme un adolescent normal, en fait. En retrouvant cette femme-là qui trouvait sur un banc à cette époque. Et qu'il a pas pu, avec qui il n'a pas pu se marier. Parce qu'il est devenu Yakuza plus tard.
Et on voit,
bien qu'il critique, bon, il y a un côté critique. Les liens familiaux au Japon, et il y a aussi une ambiguïté, disons, sur les liens familiaux que peuvent représenter les Yakuza, en fait. Il y a des films où ça peut être plus développé, les liens. On parlait tout à l'heure de Aniki, mon frère, où on essaye de retrouver des liens un petit peu dans un pays étranger, mais bon, ça pourra pas marcher, en fait. On se retrouve dans un pays qui n'a plus le lien. On est aux États-Unis où la culture japonaise n'est pas reconnue. Cette structuration de Yakuza n'existe pas aux États-Unis. C'est tout le problème du film, en fait. On a le deuxième japonais qui est là. Ils aimeraient retrouver des relations comme Yakuza. C'est quelque chose qui ne peut pas marcher. C'est un peu une arme à double... Son thème, il a double tranchant, disons. Il peut être d'un côté... Il peut conduire sur... expliquer que finalement, bon, les Yakuza vont représenter une partie... de la société japonaise, que la société japonaise respecte plus vraiment donc le rapport aux aînés, le respect aux aînés, qui est fort dans la société yakuza. D'un autre côté, il va montrer l'aberration de la société yakuza, c'est quelque chose qui conduit à rien, en fait. Ça, il va le montrer le plus fort, peut-être pour moi, quand même, dans Outrage, le premier, où on tourne complètement vide, tout le monde s'entretue.
On se coupe des doigts, mais de manière totalement.
Et on finit le film avec des. Ouais. Bah, finalement, tout le monde a fini par mourir, et voilà. C'est un circuit qui tourne à vide. Les Yakuza n'amène à rien du tout. Voilà, il y a ces contradictions-là. Il y a une ambiguïté dans la façon dont il parle des Yakuza.
J'aimerais bien revenir aussi sur l'autre thématique. On a parlé d'un cinéma déceptif, on a parlé de déceptif dans la manière dont évoluent les personnages. Il y a quelque chose d'assez désespérant aussi dans le cinéma Tietano, qu'on retrouve d'ailleurs, y compris dans sa personnalité, j'ai l'impression. On a parlé tout à l'heure du documentaire de Limousin. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à travailler, il a 7 émissions par semaine, il fait énormément d'activités, on a l'impression d'un énorme travail qui est là, et de quelque chose d'extrêmement presque déprimant qui ressort de ses films, en tout cas de tous ses films des années 90, y compris de sa trilogie introspective, quelque chose de profondément triste qui ne croit pas justement en l'avenir, dans un avenir possible de ses personnages, et qui, pour la plupart des balades qui sont faites, des trajectoires qui sont effectuées par les personnages, se terminent par un suicide ou par la mort.
C'est un humaniste mélancolique, je pense. C'est pas forcément quelqu'un de déprimé. Je crois que c'est quelqu'un de très humaniste, et on le voit dans ses films. Anabi, par exemple, je l'ai revu il y a 2 semaines. J'avais été frappé. Je m'étais pas rappelé de la force de frappe qu'il utilise dans l'histoire du couple. Et là, pour le coup, je sais pas si c'est quelqu'un de... C'est clair que c'est un stakhanoviste du travail, comme tu disais, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un de plutôt pessimiste, déprimé. Je pense que c'est quelqu'un de très, très mélancolique. Je pense qu'il travaille beaucoup là-dessus, sur la mélancolie des choses. Je pense pas. Et c'est pour ça que ça n'en fait pas quelqu'un de réac. C'est pour ça que son cinéma n'est pas réac. C'est-à-dire que beaucoup de...
Oui, mais à partir du moment où il n'y a pas d'avenir, cette mélancolie ne se transforme pas en pessimisme?
Dans beaucoup de films, disons que ça finit sur une note plutôt négative. Les personnages finissent par mourir, etc. On parlait d'autres tout à l'heure, les trois histoires, surtout l'histoire de
ce sont plus ou moins des tragédies.
Il y a une histoire tragique.
Mais ce qui est très intéressant, c'est la phrase de Truffaut, chacun des personnages va jusqu'au bout de ses envies. Donc effectivement, ça se termine par une tragédie. Après, c'est chacun comment perçoive le film, mais moi, je n'ai jamais eu l'idée, peut-être dans Violent Cop, où effectivement c'était assez mais non, moi j'ai plus l'impression que parce que à mon avis dans les films qu'il fait il y a un mélange comme ça de genre, mais aussi un mélange au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire que chaque partie dans ses films il y a une mise en scène totalement différente, et c'est parce que il explose le récit en 1000 morceaux qui pour moi il y a de la mélancolie, je perçois plus de la mélancolie que de la dépression. Après, effectivement, les fins tragiques, j'ai envie de te dire que
mais c'est ce qu'il veut faire dessiner.
Pour moi, c'est pas de la dépression.
Est-ce que cette déstructuration, ces échappées comiques ne sont pas là aussi pour rendre supportable justement la trajectoire du...
Moi, je pense que c'est des films à l'image du cinéaste, c'est pas des films bipolaires, mais c'est un cinéaste qui on dit souvent que les humoristes, très souvent quand ils jouent quand ils commencent à pénétrer dans le milieu du cinéma, ils sont super bons quand ils incarnent un personnage plutôt dramatique, plutôt tragique. Je vais faire une grande parenthèse, Bourville dans Le Cercle Rouge, qui est fascinant. Et voilà, il y a des gens comme ça. Et avec Kitano, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur même de ces films, on voit les plusieurs facettes. Je me souviens très bien une fois n'avoir pas compris, n'avoir pas fait la différence, la similitude entre Beat Takeshi et Takeshi Kitano. Je pensais que c'était deux personnes totalement différentes. Là, je vous parle de ça dans les années 90, quand on commençait à découvrir. Kitano, on n'avait pas internet, on n'avait pas tout ça, donc on n'avait pas encore toutes les informations. Donc je passais un peu pour l'imbécile de service qui ne comprenait pas.
C'est facile maintenant de faire le lien entre ces films.
Je pense que là, oui.
C'est pas le cas,
et là, c'est ça qui est très intéressant. C'est quelqu'un qui a plusieurs identités, et c'est ce que l'on voit dans ces. Et c'est ce qui font que ces films sont très intéressants, très importants. Dans Jugatsu, pour moi, ça a été une énorme claque parce que c'était la première fois que je voyais ça. C'est la première fois que je voyais comment à cette époque-là, on travaillait sur la désagrégation du temps. Et c'est ça qui est très intéressant, et que j'ai revu peut-être plus tard, on en parlait peut-être avec Sidi il y a quelques jours, dans les films, attention, j'ai vraiment utilisé des exemples très, par exemple ceux de Desplechin, ceux d'Apichat Pong, c'est-à-dire que dans les films de Kitano, et ça c'est vraiment un truc que j'ai pensé il y a quelques jours, c'est que chaque séquence n'est pas la même. Il prend un malin plaisir entre deux séquences d'organiser une rupture. Et c'est ce qui fait que son cinéma, en fait, vit.
Alors c'est vrai, mais normalement je reviendrai sur le déterminisme qu'il peut y avoir dans ces films. C'est-à-dire que malgré toutes ces ruptures, on arrive à un parcours qui se termine souvent par un suicide, souvent par la femme meurt dans un habit, dans Violent Cop, quand on en a parlé. Il y a aussi l'exemple de Kids Return. Mm. Dès le début, on nous dit, malgré ce qu'il peut y avoir, on serait dans un récit américain, les deux gamins, il y en a un qui pourrait réussir dans la boxe, il y en a un qui pourrait réussir en devenant boss de Yakuza. Ils se rendent compte quand ils sont au top de leur ascension, et l'un dit à l'autre, on se reverra quand toi tu seras champion de boxe et quand moi je serai boss. On sait dès le début, parce qu'il y a une scène introductive, tout le film est un flashback où on sait que les personnages ont échoué. Et le film se termine, ils reviennent au point de départ, ils reviennent à l'école, et ils disent, est-ce que c'est fini pour nous? Et il y en a un autre qui dit, mais non, mais ça fait que commencer. Et toute l'ambiguïté, c'est vrai, du cinéma de Kitano est là. Est-ce que les personnages s'illusionnent? Et je crois que Kitano démontre l'illusion des personnages parce que il y a cette tragédie qui est au cœur de tous ces films et que oui, de toute façon, leur vie est terminée parce qu'on nous l'a dit dès le départ et qu'il n'y a pas d'échappatoire possible pour ces personnages. Ou est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir qui persiste sur cette dernière phrase?
Mais ça va beaucoup plus loin, c'est que...
C'est mieux.
Donc, il se retourne, nous le savons, mais il y a certains de ces films où nous le savons... Enfin, dès le début, Kitano, cinéaste, ne nous indique pas, ne nous informe pas que le personnage principal aura une fin tragique. Moi, il m'est arrivé avec certains de ces films, je savais pertinemment qu'il y avait quelque chose qui allait se passer à la fin, mais en fait, j'avais envie de te dire que je m'en foutais un peu de cela. C'était pas ça qui m'intéressait. Je pense que le Kitano, il sait exactement... Il fait confiance à l'intelligence de son spectateur. Mmh. Donc il sait parfaitement que son spectateur, enfin que le spectateur lambda ou quelqu'un de très fan qui vient venir voir ses films, il sait pertinemment que, parce que c'est aussi quelqu'un de très, très talentueux, que cette idée du suspense de savoir qui va réussir, qui ne va pas réussir, qui va mourir, qui ne va pas mourir, c'est quelque chose qui passe en second plan. C'est pas forcément
le dramatisme complètement.
Voilà. D'ailleurs, Kitano pousse vraiment le bouchon très loin. Généralement, c'est toujours pratiquement lui qui meurt. Il prend même parfois un malin plaisir à se tuer dans ses films. Ça aussi, on pourrait peut-être en parler, c'est assez troublant. Donc moi, c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Par contre, là où on est complètement estomaqué, surpris, c'est comment, à l'intérieur de son propre récit, qui avance d'une manière très linéaire, à ce moment-là, il va le stopper, et il va l'emmener ailleurs, il va l'aérer. Et ça, c'est par contre, ça c'est très intéressant. Et ça, je pense que personne d'entre nous qui voit, qui découvre un film de Kitano s'attend à ça. Ou alors peut-être dans les derniers où on est effectivement un peu déçu parce que franchement on voit
mais
pas tout ça.
C'est aussi les points les plus intéressants que j'ai trouvé dans le dernier film, par exemple dans la comédie, ce que je disais tout à l'heure, mais ça vient de sa formation comique en fait, cette idée-là de construire en sketch, et que le début de chaque sketch crée un décalage avec la fin du suivant en fait. Donc il n'y a pas vraiment de vraie écriture linéaire, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours une volonté de déstructurer quelque chose en fait, l'histoire de son film. Et je trouve que ce qui avait réussi dans le dernier film, c'était ce côté-là. C'était vraiment ne pas savoir où du tout on va. Et c'est la fin du film en particulier. La fin du film en particulier. Je suis d'accord que le début n'est pas construit de cette façon. Le début, il met les personnages en place. On les voit arriver un peu un par un. Donc c'est le
pas
scénario
les gentils gagnés sur les méchants. On s'y attend un petit peu quand même. Hein.
Ouais, mais alors justement, c'est amusant, intéressant aussi de parler de qui sont les méchants dans ce film-là, qui sont les gentils. Les gentils sont les yakuza dans ce film-là. Et les méchants sont pas les yakuza, en fait. Alors que, bon, on aurait pu imaginer le contraire. Et la fin du film, on est où chaque séquence, en fait, conduit vers des choses inimaginables. On pouvait pas se douter qu'on allait partir dans cette direction. Il y a une scène où on voit quelqu'un, ils mettent en place un plan pour attaquer les gangsters dans leur société. Et un des yakuza, les 8 yakuza, propose que lui, il sait conduire un avion. Il propose qu'il va aller attaquer l'immeuble en avion. Donc il va aller chercher un avion, un aérodrome, un petit
normal,
avion.
Voilà.
Tu dis déjà, bon. Et arrivé en plein vol, qu'est-ce qu'il voit? Il survole la baie de Tokyo. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un porte-avions américain dans la baie de Tokyo. Et il se dit, Il, en fait, bon, c'est pas rien, c'est bon, pas pour moi. Hein.
L'histoire revient.
Je rappelle que c'est une comédie. Je rappelle que c'est une comédie. Et que le film, il faut le voir comme ça. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette scène, on pouvait pas, incapable d'imaginer que ça allait se passer de cette façon. Et dans l'avion, il prend le porte-avions américain, il se rappelle ses souvenirs de sa jeunesse, il se dit, je vais aller attaquer le porte-avions américain. Et là, il y a, justement, on parlait tout à l'heure que Kitano, voilà, il, si, c'est celle-là quand même, je l'ai trouvé incroyable.
Victor, convaincu.
Et bon, on a une coupure, on est dans l'avion, on dit, oh, je vais attaquer le porte-avions américain. Pouf, hop, il y a un montage, on le voit déjà, hop, déjà, ah, sur le porte-avions. L'avion est déjà c'est posé sur le porte-avions, arrêté par les Américains et on l'emmène en prison.
Ah, on ne voit pas la scène. C'est terrible quand même.
Des livres, et voilà, incroyable. Ça prend 20
secondes.
Non, tais-toi.
La séquence prend 20 secondes.
Comme ça, ça a l'air magnifique. Hein.
La séquence prend 20 secondes.
Il raconte bien en tout cas. Ouais,
on se dit qu'à ce moment-là, c'était inimaginable. On ne pouvait pas imaginer qu'il y allait avoir 20 secondes comme ça. C'était quelque chose de vraiment fou.
Alors oui et non. Parce que, un, le personnage est... Enfin, son père apparemment était kamikaze, oui, il a tout un passé. Quand il prend le porte-avions, il a le bandeau avec le
il se rappelle de son père, etc.
Le drapeau japonais.
C'est subtil d'un coup là.
C'est annoncé clairement dès qu'ils vont sur la scène du porte-avions que de toute façon il y aura un détournement. Et comme on est dans une comédie familiale, il y a deux choses. Ils peuvent pas exploser le bureau des méchants parce qu'il y aura des morts et il n'y a pas de morts dans le film. Sauf un, je vais y revenir juste après. Et deux, de toute façon, il ne peut pas y avoir non plus de scène kamikaze qui rappelle la Seconde Guerre mondiale trop directement. Ah bah, donc, il y a cette ellipse et ils sont arrêtés.
Poussé, disons.
Voilà, donc je trop loin. C'est super bien raconté, mais je tempère un peu quand on voit le film. C'est un tout petit peu.
Donc, tu nous dis, n'écoutez pas Nico. Quoi,
néanmoins, il y a quand même une scène où on retrouve l'espèce de génie de la mise en scène de Kitano dans le film. Qui est une scène où un des yakuza est mort et il décide d'attaquer le bureau des méchants, on va dire, qui sont des industriels.
On est 5 minutes plus tard.
C'est 5 minutes plus tard.
C'est vraiment la fin du film.
C'est cette scène de fin où effectivement il y a un espèce de
déchaînement. Vraiment incroyable.
Et il y a un jeu sur le contre-champ qui est extrêmement marrant, c'est-à-dire que. Ils amènent en chaise roulante le cadavre dans leur ami Yakuza.
On le voit déjà en fait, le transporter dans plusieurs séquences en fait. C'est-à-dire qu'on le voit toujours avec le cadavre dans les bras et ils s'appellent vraiment encore.
C'est un peu le Woody Lee de l'histoire quoi.
Ils finissent par le mettre sur un fauteuil roulant. Ils attaquent le bureau des gangsters justement avec ce fauteuil roulant.
Et les ennemis sont devant eux, ils sortent leurs flingues. Il y en a un qui est spécialisé fléchettes, il envoie des fléchettes, on le voit tirer à la on les voit envoyer des fléchettes. Et comme il y a le cadavre du mec devant, en fait, premier plan, champ, on les voit tirer leur truc. Contre-champ, on voit que c'est en fait le cadavre qui reçoit tout dans la nuque. Et aucun des mecs en face n'est blessé parce que le cadavre a tout pris. Les gens en face ripostent. Et pareil, c'est le cadavre qui prend. C'est le cadavre
qui prend. Question importante, Victor, as-tu rigolé à ce moment-là ?
Là, j'ai rigolé. C'est la seule fois
donc,
où j'ai rigolé.
Ça me rassure.
Dans le dernier Kitano.
Sylvie, ça va peut-être te rappeler quand j'ai vu cette séquence-là. Ça m'a rappelé, en tout cas, dans Glory of the Filmmaker, la scène où Kitano se prend des coups.
Ouais.
Et à force de prendre des coups, il finit par devenir un mannequin.
Ah oui, c'est ça, il devient...
Et qui devient Zidane.
Ouais. C'est ça.
C'est énorme.
C'est dingue, ça.
Il finit par donner des coups de boule à tout le monde.
Il donne des coups de boule, oui.
Voilà, cette année m'a fait penser un peu à celle-ci, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un, à force de prendre... Bon, il est déjà mort, disons. Mais c'est lui qui prend tous les coups. Il est entre les deux camps et qu'il ne réagit pas, en fait. Il est debout et il a un écran entre les personnes. La façon, le cadre, je me souviens que le plan ressemble beaucoup... Ah, la transformation de Kitano en Zidane, il reprend la même chose.
Il y a vraiment la même structure, quoi. Ouais. Il a encore ce...
Mais il y a beaucoup de personnages dans ces... Moi, je me souviens de ces premiers films où il y avait souvent des personnages qui étaient un peu secondaires, qui étaient des souffres-douleurs. Et on voyait Kitano prendre un malin plaisir à les utiliser comme un ressort comique. L'été de Kikujiro, ça explose en mille morceaux. Il y avait cette espèce de binôme là.
De motards.
Voilà, qui. Et j'ai l'impression.
Des bikers,
que...
et... ils sont en fait des. Enfin,
c'est un peu comme les bikers dans Doux, Dur et Dingue de Clint Eastwood. Enfin, c'est l'énorme comparaison, mais c'est quand même là. Et moi, j'avais cette impression en voyant sa fameuse trilogie, enfin, pas Achille et la Tortue, hein, plutôt Takeshi.
Et
d'être plutôt moi-même là, un souffre-douleur, en l'occurrence, face à ces films-là.
Il y avait ça aussi.
Et c'est ça qui peut être aussi intéressant. Je balance une réflexion comme ça, mais que là, à ce moment-là, il y a une interaction totale et assez assumée entre nous qui avons l'habitude, enfin, on connaît Kitano depuis plus de 10 ans, on sait un peu comment il fait les choses, on connaît un peu ses codes, on sait comment il philosophe aussi sur le cinéma, et puis on se retrouve devant Takeshi's. On avait eu un petit aperçu avec Getty Nenny, mais on s'était dit c'est une parenthèse, parce qu'après, il a enchaîné avec d'autres films qui nous ont faut dire, pour le coup, qui nous ont un petit peu réconfortés quand même. Même si on a du mal à le dire, mais ça nous réconforte un peu quand même, parce qu'on se dit, tiens, il continue sur sa lancée, après il explore des choses intéressantes. Mais avec Takeshi's et Glory to the Filmmaker, là j'avais vraiment l'impression d'être un souffre-douleur, quoi. Et,
enfin voilà. Justement, on a pas encore.
Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas, c'est bon ou c'est pas bon,
bien sûr.
Je dis, là c'est autre chose.
Bah, justement. Oui. Justement, on n'a pas encore beaucoup parlé d'Achille et la Tortue, et ce qui est intéressant, c'est que ce film, finalement, toute la trame narrative du film va tourner autour de cette question de la réception. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va vouloir devenir peintre, donc il aura une formation classique, et il va être presque tout au long de sa vie, jusqu'à sa vieillesse, à la recherche d'une reconnaissance. C'est-à-dire qu'il va faire de très beaux tableaux, mais la critique ne sera pas réceptive, pour un petit détail, elle ne le considérera pas comme un grand peintre. Il va ensuite s'essayer, il va passer du figuratif à l'abstrait, et ça n'ira toujours pas, et tout le film va tourner autour de cette question. Où est-ce que je dois aller, d'une certaine manière, pour être considéré comme un peintre à part entière? Et j'ai l'impression que dans ce film, effectivement, d'une certaine manière, il résume un petit peu quelque chose de son état d'esprit. C'est-à-dire que...
C'est un paradoxe, parce que Kitano y est arrivé quand il a eu son prix à Venise, quand il a été sélectionné à Cannes. C'est des années... Il est arrivé à ça, à cette reconnaissance en tant que cinéaste qu'il a eu...
Mais peut-être que ça l'a interrogé sur... est-ce que c'était voulu ou pas, d'une certaine manière, de faire un chef-d'œuvre, de faire un film qui plaît, qui parle à autant de personnes?
Et dans le film, dans Achille la Tortue, justement, c'est pourquoi c'est Achille la Tortue, c'est l'idée que Achille ne pourra jamais rattraper...
C'est ça, il courra toujours.
Et c'est ça, voilà. Et la tortue, quelque part, c'est l'attente du public. Parce que c'est la mode à l'époque, qu'est-ce qu'il fait en art à l'époque en tant que peintre? Il ne pourra jamais se suivre ce mouvement, il sera toujours derrière.
C'est ça, il ira toujours le côté Warhol, le côté...
Ce qu'il faut faire à ce moment-là, en fait, ce qui est à la mode, etc.
C'est ça.
Et il ne pourra jamais être en avant de ça, en fait.
J'aimerais bien revenir sur une thématique.
Donc toujours l'idée du son rapport avec le public est vraiment intéressant. Ouais.
Et donc ça pose la question presque du côté accidentel, presque de la réussite. On parlait d'échec, de réussite, qu'est-ce qui fait qu'on réussit sa vie ou pas, qu'on est reconnu ou pas, et... Vraiment, dans ce film, j'ai l'impression qu'il y a une envie presque de pas nous rassurer, parce que voilà quoi, il y a toujours chez lui une sorte de folie qui nous déconcerte. Je crois que ça se termine par le héros qui se brûle, enfin, c'est ça quoi, finalement je vais...
On en revient à la tragédie,
voilà, quoi,
c'est
ça, je vais faire de mon corps même l'objet de mon art, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et cet excès, ce débordement montre que oui, il y a vraiment chez lui une question de presque du malentendu qui me passionne, quoi. Enfin voilà.
J'aimerais bien rebondir là-dessus et revenir sur une des thématiques qu'on a évoquées au début du podcast, qui est celle d'un cinéaste générationnel, justement, et de poser la question, qui regarde les films de Kitano aujourd'hui? Parce qu'on les a appréciés dans les années 90, donc notre génération de trentenaires, on va dire. Voilà, les films ne sortent plus en France, ils sont vus au Japon. La génération précédente ne les a pas forcément appréciés, comme on l'a rapidement évoqué, et la génération suivante n'a même pas l'occasion de les voir, en fait.
Bah si, ceux qui lisent les cahiers du cinéma doivent se dire, tiens, je vais quand même... moi je vais suivre la politique des autres. Oh, doit y en avoir, des jeunes étudiants.
Les cahiers du cinéma, je suis désolé, on ne parle pas d'Outrage Beyond et ne parle pas de.
Ah, ils en parlent pas. Voilà, je sais pas. Nous on est cette génération-là, mais après je sais pas ce qu'il y en a des gamins d'aujourd'hui.
Je parle d'une autre génération, personne ne connaît.
Voilà.
Il y avait un bel article sur Outrage, le premier Outrage sur les cahiers.
Qui avait été défendu, ouais.
Qui avait été défendu, mais le deuxième, je crois qu'il n'y avait pas eu de.
Ouais, ils ont pas.
Mais il est même pas passé en festival, Outrage Beyond. Enfin, si. À part une.
Kinotayo.
À Kinotayo, effectivement. Mais sinon, il n'a pas été sélectionné dans un grand festival. Donc il n'y a pas de raison pour que des médias importants, je compte les cahiers du cinéma comme un de ces médias, en parle aussi. Quoi.
Je me souviens quand même, enfin, à l'époque d'Outrage, le premier c'était 2011.
2010.
Ouais. 2010, j'étais à Lyon à cette époque-là, il y avait des affiches de partout à Lyon de Outrage. C'était quand même. Moi, ça m'avait surpris à l'époque, justement. Je me disais déjà à l'époque, qui ça va intéresser, en fait. Et il n'y a pas eu énormément d'entrées. Mais ils avaient mis le paquet, en tout cas à Lyon, je me souviens, d'affiches sur le métro, bus. Et passer de ça à même plus de sorties salles, même plus de sorties DVD, c'est quand même. Une aberration, c'est peut-être ils ont trop. C'était peut-être une erreur, la sortie d'Outrage, peut-être qu'en DVD direct, ça aurait. Je sais pas.
C'est aussi le marché qui a changé, qui a changé en France. Il y a les raisons qu'a évoqué Martin tout à l'heure. Et effectivement, les attentes du public aussi qui ont changé complètement, qui est que Kitano est devenu un réalisateur important au Japon, et malheureusement un réalisateur qui n'est plus du tout attendu par les cinéphiles de France.
Si un film japonais de Yakuza fait venir personne en salle,
mais là on en arrive à un constat plus général, les films asiatiques de toute façon
c'est ça.
Rassemblent en fait, plus voilà. Le public qui rassemblait avant.
C'est ça. En fait, quand je parlais au début du podcast d'un cinéaste générationnel, quand tu nous as annoncé que le podcast serait en partie consacré à Takeshi Kitano, bon, je pense que certains d'entre nous ont commencé.
Au moins 1h45,
on commençait à voir ou revoir ces films. Après, chacun, on a tous une expérience un peu assez intime avec lui. Moi, je sais que. Enfin, moi, j'ai bientôt 39 ans, donc Takeshi Kitano, les années 80, c'est vraiment ma période. Et moi, je me souviens de d'autres cinéastes aussi de cette époque-là, ses contemporains, donc cette génération qu'on découvrait. Il y a eu, dans les années 80, au début des années 80, avec les fameux numéros des Cahiers du cinéma, avec le voyage d'Olivier Assayas et de Charles Tesson, si je ne me trompe pas, où ils nous ont fait découvrir le cinéma asiatique, hongkongais, même si Danet avait commencé un peu dans les années 70, mais c'est surtout Assayas et Tesson. Mais par rapport aux années 90...
On est parti sur une heure, là.
Voilà, mais par rapport aux années 90... Non, je vais aller très vite, t'inquiète pas. Par rapport aux années 90, ce qui avait changé la donne, c'est qu'il y avait beaucoup plus de médias, beaucoup plus de formes de médias aussi, et c'est ce qui a fait, moi je sais qu'à l'époque il y avait les fanzines universitaires, les sites internet commençaient à se créer, donc la masse était beaucoup plus conséquente, et à cette époque là on recevait du Kitano, mais on recevait aussi du Hsiao Hsien, on recevait Wong Kar-wai, Tsai Ming-yuan, John Woo, il s'est passé quelque chose. Ouais.
Il y avait une vraie ébullition sur le cinéma asiatique.
Exactement. De toute façon, voilà, et on se disait, en fait, tout se passe là-bas. Mmh. Et quand tu nous dis, voilà, on va faire un spécial Kitano, moi j'ai extrêmement peur parce que Kitano, ils avaient 90, on travaille sur des fanzines avec des amis universitaires, et c'était un cinéaste qu'on défendait. Je me souviens encore d'une couverture qu'on avait mis en une, c'était Jugatsu, parce que pour nous c'était important. Et aujourd'hui, moi qui ai vécu cela en direct, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2015? Est-ce quelque chose a changé? Et les films des années 90, en les revoyant tous, rien n'a changé pour moi. Je continue encore avec, entre ce qui s'est passé, fin 90 jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé plus de 15 ans, il y a eu d'autres formes de cinéma, d'autres langages qui sont apparus. D'autres manières aussi de parler du cinéma, qui n'était pas là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui a conservé, qui s'est conservé. Et je ne sais pas si tu te souviens, le podcast de janvier ou février 2000, ou c'était décembre plutôt 2014.
C'est le bilan 2014.
On avait parlé à un moment de ça, et on s'était dit, on s'était interrogé sur pourquoi on ne connaissait pas encore la liste des nominés pour le festival, enfin, ceux qui étaient sélectionnés pour le festival de Cannes. Mais on se posait la question, pourquoi il y a des cinéastes comme Hsiao Hsien, comme même Tsai Ming-yang, il y a eu même aussi Wong Kar-wai, enfin, tous ces cinéastes un peu des années 90, pourquoi ils n'ont plus autant de renommée, pourquoi ils n'ont plus autant de succès, de critiques publiques aujourd'hui que dans les années 80. Les années 90, c'était énorme, on ne pensait que ça. Celle qui contredisait les avis positifs sur ces films-là était un peu pris pour des tocards. C'était assez compliqué. Et c'est là où je parle de cinéaste générationnel, c'est là où ça m'intéresse donc de dire est-ce que ça perdure en fait? Est-ce que les films ont mal vieilli ou bien vieilli, ou est-ce qu'ils sont encore modernes? Et en les voyant, je trouve qu'ils sont extrêmement modernes.
Ils sont extrêmement modernes, mais surtout, ils étaient précurseurs. C'est-à-dire qu'il y avait un cinéma très conventionnel, finalement. Le cinéma américain avait un peu de mal à se réinventer, et finalement, les cinéastes qui arrivaient un peu à sortir du lot étaient sous influence. On ne connaissait pas très bien qui. Et il y a certains magazines spécialisés. T'as parlé des gars du cinéma, mais par exemple, il y a le numéro spécial Asie du cinéphage, qui a mis le doigt sur regarder ces cinéastes et tout ça. Donc, aussi l'ancienne génération que la nouvelle et les petits jeunes qui allaient venir. Et après, il a voulu spécialiser HK, qui a fait un travail absolument admirable là-dessus. Et donc, voilà, on a pu décrypter ces gens et on a dit, mais regardez un peu ces types-là. ils font un cinéma, ils ont un langage qui est différent. Et purée, enfin voilà, c'est là où il faut regarder, c'est eux qui innovent, ils n'ont pas les mêmes moyens que les Américains, mais par contre, ils ont les idées, les inventions et l'envie de le faire. Et c'est là où c'était très fort. Et puis, bon, bah, avant la récession, le cinéma d'Hong Kong était vraiment. Voilà, ils produisaient énormément, ils avaient des très grands auteurs, il y a un très bon cinéma populaire. Voilà, le cinéma japonais. C'était tari dans un certain sens parce que à la mort des grands studios, mais est arrivée, comment dire, une génération de jeunes auteurs. Alors bon, Kitano en fait partie, et c'est un peu un cas à part, mais il a fait un peu d'ombre à toute la forêt, parce que il y a énormément d'auteurs qui sont vraiment passionnants japonais qui sont passés sous le radar, et je pense notamment à Fuji Iwai, qui est vraiment un cinéaste extrêmement important et qui est donc personne connaît en France, ou à un type comme Masato Harada qui fait quand même du très très bon cinéma. Et pourtant, voilà, je me souviens, dans le numéro spécial Japon, il y avait un article dans HK qui disait, mais ces gars-là, il faut les suivre, c'est eux. Il n'y avait pas que Kitano, il y avait aussi ces gens-là. Mais bon, bah, les distributeurs ont fait la sourde oreille et compagnie. C'est vraiment dommage. Shunji Iwai, par contre, on aura peut-être bientôt son dernier film en salle, qui est un film d'animation, qui est le préquel de Anna et Alice. C'est pas trop tôt.
Mais j'oublie aussi Kurosawa. J'ai Kurosawa dans la liste des. Là où c'est assez passionnant, c'est quand on revoit donc tous ces films de la période des années 90, la manière comment il avait de filmer sa société, et, comment il filmait aussi le couple. Ça, c'est très important pour moi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je retrouve ça dans le cinéma, dans le cinéma contemporain d'aujourd'hui. Et que pas forcément dans le cinéma asiatique, dans le cinéma mondial. Cette manière de filmer la déségrégation du couple à travers des ruptures au niveau du récit, je retrouve ça encore aujourd'hui. Donc, et même, alors, pour aller là, effectivement, pour être un peu pessimiste, ce que l'on voyait dans le regard qu'il avait sur la société, sur ses contemporains, Kitano, sur le couple, sur la famille, sur l'identité, ce sont des questions qui restent encore aujourd'hui d'actualité. Et qui parfois, aujourd'hui, je trouve que parfois certains cinéastes ne vont pas jusqu'au bout, ne sont pas assez courageux, alors que Kitano lui allait jusqu'au bout, parce que peut-être son côté un peu multiple qui faisait que ça donnait un cinéma, un cinéma qui était multiple, voilà. Donc ça, c'est surtout ça que j'ai recherché quand j'ai revu ces films, c'est surtout ça que j'essayais de chercher. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce cinéma peut encore parler à des gens de 2015 ou peut parler à quelqu'un qui ne connaît pas? Et j'ai l'impression que ça peut. Il y a une communication encore qui se fait entre ces deux périodes, c'est-à-dire la période des années 90 et celle de 2015. Je pense que c'est intéressant de travailler là-dessus aussi.
Dans le cinéma japonais, malheureusement, je suis un peu plus pessimiste que toi, parce qu'il y a un truc qui est assez marquant quand on revoit aujourd'hui les films de Kitano des années 90, c'est un détail, hein, mais par exemple, il y a des SDF au coin de. C'est aussi la société. Japonaise qui a évolué dans ce sens-là, mais en tout cas il y a une représentation des marginaux, des classes sociales qui sont les plus défavorisées, et au coin d'un plan on va voir un clochard dans un film de Kitano. Aujourd'hui dans un film japonais mainstream, c'est impossible qu'on voit un SDF dans un film.
Je voudrais rappeler d'ailleurs que en fait finalement 6 mois avant la sortie de son dernier film Yozo, Kitano avait pris la parole, je ne sais plus à quelle occasion, pour critiquer très fort le cinéma japonais contemporain.
Exactement.
Pour dire que le cinéma japonais contemporain, il allait dans une très mauvaise direction. Oui. Qui rejoint ce que tu viens de dire, en fait. Qu'il se déconnectait, en fait, de la réalité de son pays. Et que il perdait toute qualité. Qu'on reconnaissait plus le cinéma japonais de.
Et qu'on reconnaissait plus non plus Japon.
Le cinéma japonais, de toute façon, prend la même direction que les trois quarts des autres cinémas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils adaptent que les romans et les mangas. Donc voilà. L'avantage, c'est que les mangas japonais, enfin les mangas, sont beaucoup, beaucoup plus divers que les comics. Les comics, à 80%, ça reste des mecs en slip qui ont des super pouvoirs. J'adore ça, hein. Mais les mangas, ça dépeint toutes les couches sociales,
ça peut amener
toutes les professions
d'autres sociétales, voilà. Et autres.
Ça brûle pas dans les films, par contre.
C'est vrai que c'est ça, c'est pas trop, on voit pas trop souvent.
Il y a de la subjectivité dans l'air.
mais par contre, voilà, le manga touche beaucoup plus de domaines et pas uniquement des Naruto et choses comme ça. Ils ont aussi des très très grands auteurs. C'est un peu mieux représenté que voilà, dans le comics. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il y a très peu maintenant de cinéma purement d'auteur japonais. Quoi. Il y en a très très peu, malheureusement.
Et je vois qu'à la base, le projet, son dernier film, c'était un peu ça, c'était un peu l'ancienne génération. Je reviens, alors c'était la génération des acteurs du même âge de Kitano qui se sont rassemblés pour faire un film, dont Tatsuya Fuji. Et un peu aussi pour en remontrer à la nouvelle génération. Le projet de base, j'imagine bien que c'était ça, pour en remontrer à la nouvelle génération que hein, le cinéma japonais, c'était pas ça avant. Voilà. Et que voilà, ce qu'on sort, nous, l'ancienne génération, il faut en remontrer aux jeunes.
Et c'est vrai qu'on trouve dans ce film une mise en abîme d'ailleurs de ce qu'est devenu le film de Yakuza et de l'impossibilité de faire un film de Yakuza aujourd'hui. Donc il y a des pistes théoriques qui sont assez intéressantes. Et je ne vais pas aller plus loin parce que je ne voulais pas finir sur une note négative.
Non, mais après, je peux te suivre aussi en disant que le film... Je vois bien que 6 mois avant la sortie de ce film, Kitano va critiquer vertement le cinéma japonais. Et puis, 6 mois après, ce film sort. Bon, et je me demande aussi, est-ce que vraiment ce film-là fait avancer le cinéma japonais? C'est aussi ce qu'on peut se demander. ça peut poser un problème. Il y avait une contradiction peut-être, c'est-à-dire qu'il a critiqué peut-être un peu trop fort par rapport au film qui sortait à cette époque-là. Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des enfants de Kitano aujourd'hui, des cinéastes qu'il a... Est-ce que finalement son cinéma est resté solitaire ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à saisir quelque
pas,
chose
Non, je ne pense pas qu'il y ait aucun réalisateur qui a
réussi
ce genre de cinéma en fait, qui a réussi à pouvoir faire ça. Mmh. Je vois personne.
Non, il est trop solitaire.
Mais en tout cas, la télévision, il y a une génération Kitano, oui. En tant que comique.
D'accord.
Ça, oui, il y a des enfants Kitano à la télévision. Ouais.
Je disais d'ailleurs, c'est peut-être le problème de se demander s'il y a une succession maintenant, enfin, s'il a encore une influence maintenant, du fait qu'il n'y a pas de nouveaux cinéastes japonais ou d'ailleurs qui s'en réclament. Du coup, on peut se poser la question de l'impact qu'il a sur les jeunes générations, pas de nouveaux réalisateurs qui se réclament de thématiques ou même visuellement. Donc,
Mais on revient à cette question qui est que tout simplement au Japon, il y a une impossibilité à faire ce que faisait le cinéma japonais des années 90 aujourd'hui. Donc même s'il peut y avoir une influence, à mon sens, elle ne sera pas au Japon. Il faut chercher.
Et puis il y a même le fond, ailleurs. Parce qu'on l'a vu dans le dernier Kino Taiyo, où les trois quarts, même des films d'auteur, c'était des histoires de jeunes repliés sur eux-mêmes, enfermés chez eux. Il y a plus ce regard sur le monde ou la société. C'est vraiment du repli sur soi. Participer un peu à l'état d'esprit actuel.
Ça veut dire que contrairement à d'autres cinéastes asiatiques qui ont été en vue, ou en Kawaii ou Xiaoxian, qui ont vraiment. Il y a presque une école, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un maniérisme autour de ce qu'ont proposé ces cinéastes-là. Kitano, soit a eu un cinéma tellement singulier ou indiscernable que finalement. Les jeunes fans n'ont pas su vraiment comment essayer de restituer quelque chose de son art. Ou soit, je sais pas, c'était juste un effet de mode. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose quand même. Il y a vraiment une grande question là-dessus.
Il a été à cheval parce qu'il y a cette. Voilà, si on voit l'histoire, toute sa filmographie, il a eu une situation unique, exceptionnelle en fait. C'est-à-dire que, déjà, dès le premier film, d'être à un poste de réalisateur d'un film qu'il ne devait pas réaliser. Depuis le départ, il y a un peu un décalage entre. Ce qu'il est, lui, sa formation, d'où il vient, c'est et ça. Puis son métier, son travail. Ce qui fait qu'il y a toujours eu une distance entre les deux. Ce qui fait qu'il a toujours pu jouer de cette distance et la réduire ou l'agrandir le plus possible. Après, ensuite, il y a la reconnaissance en Occident. Il a joué de ce décalage. Ce qu'on attend de lui en Occident, ce qu'on attend de lui au Japon, de pouvoir jouer avec les deux, de mélanger les deux. Il y a ce côté-là. Kitano, il est quand même il a quelque chose de singulier. Il s'est retrouvé dans une position singulière dans le cinéma japonais. C'est pour ça que c'est très difficile d'imaginer quelqu'un qui pourrait marcher sur ses pas.
C'est ça.
Qui pourrait le suivre. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de coïncidences, de hasard, en fait, je pense, dans sa filmographie, en fait, dans la façon dont sa carrière s'est déroulée.
Alors j'aimerais bien finir sur une note un peu plus positive sur le fait qu'il n'y ait pas de successeur ou de possibilité de suivre la filmographie qui l'est fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut évoquer un souvenir particulier ou en tout cas un conseil pour quelqu'un qui voudrait découvrir Kitano aujourd'hui. Par quel film commencer, peut-être Samir?
Par quel film? Ce serait Annabi. Ce serait Annabi. C'est un peu facile de dire ça, mais ce serait Annabi. Moi, ce qui m'avait... C'était donc à l'époque, donc dans les années 90, c'était les premières projections de presse. Et donc, en découvrant le film, surtout cette partie avec l'histoire du couple, moi, je recommande énormément ce film pour comprendre... Si on connaît un petit peu l'histoire, l'autobiographie de Takeshi Kitano, c'est pour comprendre, pour cerner que ce cinéaste-là était l'un des plus importants, enfin, qui reste encore l'un des plus importants aujourd'hui, et qu'il avait une manière moderne de travailler sur la désagrégation du couple. Et je me rappelle que ce jour-là où je l'ai découvert, j'avais l'impression d'avoir découvert un peu mon voyage en Italie de Rossellini, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, enfin, j'avais mon voyage en Italie. C'était à travers un habit. C'est vraiment le film que je recommande, surtout la notion de couple.
Le miracle en moins, quoi.
Voilà. Pour faire vite, je dirais, moi, ce Latine. C'est vraiment, c'est par là que c'est d'où est arrivé. Et je pense que c'est aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure porte de sortie, quoi. Tout est là. Anabi, c'est le film est parfait, mais je pense que c'est un peu dangereux de commencer par le sommet. Voilà. Mais on va être avoir un échelon. Et ce Natine est vraiment un très bon tremplin, une porte d'entrée remarquable pour ce cinéaste et ses carrières plus qu'étonnantes, quoi. Voilà.
Donc ce Natine, un ami. Voilà. D'autres Kitano. Nicolas, si,
en fait, ouais, bah, moi je dirais Achille, en fait, parce que vraiment je il y a quelque chose de louable pour moi dans la manière dont il décide de poser frontalement la question de l'artiste, quoi. Et ce film m'a rassuré sur certaines choses et a peut-être entériné certaines questions que je me posais en voyant ces deux précédents films un peu déstructurés. Donc voilà, après, comme tout le monde, je suis effectivement fan de ces grands films de Yakuza des années 90, mais dans ces films, je crois que c'est vraiment Achille et la Tortue qui me parle le plus.
Bon, moi je pense qu'il est temps d'arrêter d'écouter ce podcast d'Isasia et d'aller jouer sur la plage à quelques jeux comme dans les films de Kitano. See you, Space Cowboys.
See you.